la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Alison Wheeler.
Bonjour.
Daniel Morand.
Bravo, bravo Daniel.
Albert Algou.
Bonjour.
Et Charles Arnac est au clavier.
Bravo.
Et notre invité, Joe Star.
Bravo.
Oh my God.
En pleine forme. Merci de venir à ce micro, Joey, à l'aube.
Ouais.
Vous êtes du matin
vous
ou pas?
Vous savez que ça fait plus chic d'arriver en retard.
Il paraît.
Mais quand on est le boss.
Oui, c'est pour moi que vous dites ça, mais en fait, j'étais pas vraiment en retard.
Non, mais même
c'est...
Ça va.
C'est un signe de politesse. Dans les règles de savoir-vivre, la baronne Staff disait qu'arriver en retard, c'est un signe de politesse. Parce que
ah bon
bah non,
ça,
c'est l'inverse. Non, on laisse le temps aux gens qui vous invitent de ne pas paniquer.
Oui, puis je me suis dit que si j'arrivais trop tôt, vous allez être impressionné, Joey Star. Donc, il fallait que je retarde un tout petit peu mon arrivée. Et voilà, je suis là.
Et vous la faites tous les matins, ça?
Non, juste pour vous. C'est une spéciale Joey Star.
C'est vrai que vous êtes ce qu'on appelle un comique de répétition.
Non, mais en fait, non, hélas, mais je vais y penser. C'est pour le prochain invité. Voilà, ça commence bien. Ça va ?
Joey Star est pour la première fois au théâtre. J'ai peur, Maréchal, que vous n'ayez pas très bien compris pourquoi Joey Star est notre invité aujourd'hui.
Négatif, j'ai très bien compris, mon cher Nagui. Mais si vous me posez la question, c'est évidemment parce que vous n'en savez rien, vous. Et comme d'habitude, vous comptez sur les informations de mon introduction, non seulement pour assurer dans la foulée une interview qui donne le change, mais surtout pour ménager la susceptibilité de Monsieur Star dans tout à l'heure, quand vous l'avez vu qui venait vers nous dans le couloir. Vous avez marmonné, je vous cite. Oh la vache, putain, regardez Maréchal, cette démarche sauvage, cet air féroce.
Le jaguar.
Ce regard très inquiétant derrière ses binocles. Mais putain, mais c'est Joey Star. J'avais complètement oublié qu'il devait venir. Ganache, dans votre intro, débrouillez-vous pour bien lui mouiller la compresse. Alors surtout, pas de provoque, ce mec est complètement imprévisible. Un vrai dingue, un ouf total. Il peut être très dangereux, pour un rien. Il peut aussi bien vous claquer une bise que vous claquer la gueule. Et je l'ai vu tuer un pitbull d'un seul regard. De toute façon, si ça tourne mal, je m'arrangerai pour détourner l'agressivité de Joey sur Daniel Morin, qui est une fiotte, Leïla Kadour-Boudadi et Alison Wheeler.
Ouais.
Pour une fois, ça les forcera à réagir. Voilà, Nagui, ce que vous m'avez glissé à l'oreille tout en me poussant dans mon fauteuil roulant, les toilettes handicapées. Ce qui, juste après, ne vous a pas empêché de vous avancer vers Monsieur Star pour l'embrasser et lui lancer « Salut Joey, ça me fait tellement plaisir de t'avoir dans l'émission. Ah, ah, ah putain, je préfère que ce soit toi plutôt que Vianney ou Christophe Maé, ces deux endives qui font vraiment de la merde.
Oh. »
Pour vous mettre à l'aise, mon cher Nagui, je vais donc procéder à mon traditionnel pitch.
Non, le pitch.
Pitch. Où vous pourrez puiser les infos nécessaires à cet entretien. Seul, sur la scène du théâtre de l'Atelier, Joey Star lit, ou plutôt interprète, les discours de 9 personnalités marquantes de l'histoire de la République. De Robespierre à Simone Veil, en passant par Victor Hugo, Olympe de Gouges. Personnages extraordinaires, Clémenceau, Malraux, Aimé Césaire. Des personnages exceptionnels qui, comme moi, en avaient dans le froc, même les gonzesses, et qui ont infléchi le sens de l'histoire, qui en avaient dans le crâne, contrairement au trio de lobotomisés qui vous entoure ici. Vous
Merci.
Avez senti mon pitch ? Vous l'avez senti ?
Ouais.
Concis, synthétique, comme mon slip camouflage, et qui donne envie d'aller applaudir Monsieur Star. Quant à moi, je dois dire que ce florilège de l'éloquence républicaine m'a donné l'idée de monter, plutôt de me faire porter à mon tour sur scène, pour interpréter mes grands discours prononcés jadis devant mes légionnaires, au Tonkin, qui ne se résumaient pas seulement à leur... Alors les lopettes, ici en Indo, le petit jaune, ça se boit pas, ça se bouffe. Mais, eu égard aux mutilations qu'en 1954 m'infligèrent les viettes, qui se taillèrent des escalopes de dinde à même mon croupion, je ne peux souffrir la position assise plus de 3 minutes, vous le savez.
Oui, oui.
Aussi n'aurais-je pas le plaisir de vous régaler de mes harangues martiales. Bonne émission.
Merci,
Maréchal.
La bande originale, Lévi. Sur France Inter.
8 représentations exceptionnelles, dont une qu'on a déjà vue, donc plus que 7 pardon, pour le compte à rebours. Éloquence à l'Assemblée. Les textes ont été choisis par Pierre Grillet, choisis d'ailleurs un par un, et j'imagine aussi dans leur logique, par lequel on commence, par lequel on finit. Tout ça mis en scène par Jérémy Lippmann. Comment vous retrouvez, alors que c'est la première fois que vous êtes au théâtre, c'est pas la première fois que vous jouez, c'est la première fois que vous êtes au théâtre, comment vous êtes retrouvé dans ce projet, Joey?
Bah, c'est eux qui me l'ont proposé, en fait. Moi, j'ai accepté à partir de... c'est par le biais d'agents interposés, mais c'est surtout que j'ai lu un peu toute cette histoire et ça m'a donné très envie, alors qu'on me proposait déjà de faire... Ça fait longtemps qu'on me proposait de faire des choses et que j'avais jamais accepté.
Au théâtre?
Ouais. Et ça m'a donné envie, en fait. Voilà,
parce que, en plus, le parce plus... que les textes, parce que ce qu'il racontait,
parce que les textes, l'histoire. J'ai même pas calculé le fait que j'allais me retrouver tout seul, c'est-à-dire qu'après avoir accepté, j'ai dit, mais en fait, tu vas être tout seul pour faire ça, disons. Voilà. Non, non, c'est vraiment les textes qui m'ont ému et qui m'ont motivé à le faire, ouais.
Ouais. Est-ce qu'il y a eu un choix entre vous, Pierre Grillet et vous, sur des textes? Est-ce qu'il y a des textes qui étaient là au départ, qui n'y sont plus? Est-ce que vous vous êtes dit, je pense à Aimé Césaire, vous êtes dit, mais pourquoi il n'y a pas Aimé Césaire? Ça serait bien qu'il y soit.
Par exemple, Aimé Césaire, ouais, n'y était pas au départ.
C'est vous qui l'avez proposé.
Je sais plus exactement, mais en tout cas, ça s'avérait logique qu'il y soit.
Ouais, clairement.
Voilà. par exemple. Madame Taubira devait y être, et en fait il y a une espèce de modernité qui à mon avis est un peu décalée avec tout le reste. On a déjà Simone Veil qui est, enfin voilà, c'est pas une histoire de thématique ou autre, c'est voilà, ce truc
c'était trop proche, se retrouve trop proche de l'actu.
Non, ce que j'allais dire, non, pas du tout. De toute façon, tous le sont. Ah
oui. Mais ils résonnent.
Tous résonnent,
c'est incroyable.
Soit en résonance, soit même de manière plus précise, mais non, non, c'est surtout dans la livrée, quoi. C'est pas du tout voilà, à jouer, tout ça. Je pense que voilà, ça aurait pas eu la même résonance.
Les thèmes sur le populisme, l'antisystème, gouverner pour les plus faibles, l'importance du vote, la sous-représentation des femmes. On a l'impression qu'on pourrait avoir presque des sujets de la campagne actuelle. Oui. Et ce sont des textes de Robespierre, Lamartine, Victor Hugo.
La presse, ouais, aussi, le rôle de la presse, ouais. Et comment on s'en prend ou pas à la presse. Et là, au cœur d'une campagne électorale, c'est plutôt bien senti aussi.
La corruption de Tocqueville.
Ah, il y a un texte de Tocqueville, ouais. On croirait qu'il a été écrit hier, ouais, en pensant à certaines affaires très récentes, où il parle de la moralité, voilà, et de la légalité.
Pour c'est sa femme, pour sa famille.
Pour sa famille, et sa femme. C'est
troublant.
Extraordinaire.
C'est vraiment troublant.
Non, non, mais même moi, enfin, il faut savoir que ça fait un mois que je...
Que vous bossez là-dessus ?
Ouais, un mois, un petit peu plus d'un mois, léger. Et que justement cette affaire est montée dans les tours, et que plus on tourne, et à un moment donné on se dit mais c'est pas possible. Donc le mec avait déjà inventé la machine à téléportation.
Ou finalement l'histoire se répète et le genre humain.
Que l'histoire se répète, bon bah ça.
Et le genre humain est un peu le même, c'est-à-dire
voilà, c'est surtout ça.
Toujours les mêmes vices, ouais, les mêmes problèmes.
Exactement.
Bah, c'est que la République est fragile surtout, et que ces textes appellent à défendre les. Ce sont des textes très très bien écrits, ce sont des textes magnifiques, littéraires, Victor Hugo, Tocqueville, Olympe de Gouges, la langue est magnifique, non, magnifique. Mais en plus, comment dire, il y a des valeurs, bon le mot est surcoté souvent, des principes qui sont défendus avec force, avec beaucoup, à l'époque on pouvait penser de manière utopique, mais pas du tout, les mecs étaient visionnaires, c'est des textes qui sont visionnaires, c'est pour ça qu'ils nous parlent aujourd'hui.
Tout ce qu'ils racontent table sur le passé à mort, sur tout le cheminement, aujourd'hui on est... On nous sort des chiffres, des choses. Enfin, c'est voilà. On nous vend de la promesse, quoi. Eux nous expliquent que hier c'était comme ça. Il nous faut à un moment donné faire le switch de tout ça et ainsi de suite. Là, on est dans un.
Malheureusement, on se rend compte que.
Ça t'intéresse pas ce que je dis.
Non, mais pour venir alimenter sur les chiffres.
Ganache, vous avez prévenu. Hein.
Sur les chiffres, c'est que malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas toute cette littérature, ces plumes.
Ah,
il y a des envolées qui sont incroyablement fortes.
Ouais, on en a un qui se prend pour Georges Marchais, limite, quoi.
Mélenchon.
Ouais, voilà, limite, on le regarde, moi, petit, qui regardait Georges Marchais avec des yeux comme ça, qui ne comprenait pas du tout ce qu'il voulait, tellement il me faisait peur.
Mais c'était un spectacle, Marchais.
Voilà, mais Marchais, à la limite. Ouais. Non, mais si y a un rapport un peu avec tous ces gens-là, je dirais le dernier tribun, c'est un peu Mélenchon. Bon, voilà, c'est tout, quoi.
Vous savez, il y a Marine Le Pen avec...
Non, j'aurais dit là 3,50 m de gueule, 10 cm de patte, moi, j'aurais dit plutôt.
mais elle s'est haranguée les foules et les embarquer avec elle.
Ouais, mais ça, c'est... Enfin, heureusement, quand tu fais du populisme à son niveau, vaut mieux, quoi.
Il y a une... Excusez-moi, mais je vais faire l'historien, mais il y a une explication très importante sur le manque de lyrisme aujourd'hui qu'on déplore. C'est qu'en 1934, il y a eu une loi qui a été votée au Parlement pour donner la parole non plus à des individus, donc des personnalités très fortes, mais à des groupes. Ouais. Et donc, les mecs sont devenus le porte-parole d'un groupe, et donc, à partir de ce moment-là, ils perdaient un petit peu de leur verve personnelle. Et on peut... C'est pour ces textes sont extraordinaires, sont d'une grande qualité, parce que c'était des individus, des personnalités. Ouais. Après, ce sont beaucoup moins avec des exceptions comme Taubira.
Taubira
effectivement, Mélenchon. Et puis dans le populisme, il y en a toujours qui peuvent donner. Mais elle est un peu faisandée, leur.
Il y a des phrases, comme celle de Lamartine. Le vice à mes yeux n'est pas dans le ministère. Il n'est ni dans le ministère actuel, ni dans celui qui l'a précédé, ni peut-être dans ceux qui seraient destinés à lui succéder. Le vice est plus haut. La difficulté de la situation, la gravité du péril de la France sont ailleurs. Elles sont dans le système tout entier. Ce genre de phrase anti-système, on se dit, elle n'a pas de date.
C'est surtout elle n'a pas de date parce que aussi dans ce texte, il explique qu'à un moment donné, c'est pas seulement. Il explique comment le privé se déprave et donc en même temps qu'il prend le pas sur la politique et le public, quoi. Donc voilà. Donc c'est pas tout neuf tout ça. Voilà. Enfin, ce qui se passe aujourd'hui, pardon.
C'est impressionnant de vous voir sur scène parce que vous êtes une bête de scène, on le sait, avec la musique. Se retrouver bête de scène, seul en scène avec des lumières, une mise en scène super forte.
Voilà, il y a
des super idées, c'est à voir, y compris le final, y compris les projections qui se passent derrière vous, les bruitages aussi par moment. Et c'est une... C'est une lecture, hein.
C'est
présenté comme ça.
C'est
affiché comme une lecture. Vous trichez pas, ouais.
Bah non, mais de toute façon, c'est ce qu'il avait écrit contractuellement, hein, moi, sinon j'y allais pas.
C'est costaud.
Non, c'est impossible.
Je pense que c'est faisable. Voilà. Bon, moi, j'en ai pas les épaules, mais de toute façon, le lire et l'acter, c'est un sacré exercice aussi. Moi, je me suis réconcilié avec la lecture à haute voix.
Et vous pouvez pas vous empêcher de rajouter.
Je regrette quand je disais des histoires à mes fils de pas les terminer, d'essayer de les envapper en jetant le livre et en leur racontant en improvisant. J'aurais dû continuer.
Ça peut être pas mal non plus.
Et pourquoi le prompteur et pas simplement le texte dans la main? C'est pour un confort, vous sur scène. Pour incarner davantage.
C'est pour des histoires de scénographie.
Pour pas qu'il ait le nez dans le texte. Quoi,
non, mais serait... après, je pense que vous.
Non, mais c'est
vous connaissez
c'est
quand
pour
même
une histoire de scéno. Et puis, on avait envie que ça vive. Là, en plus, je suis content que vous souligniez. Quoi. Jérémy Liebman est un doudingue et la scénographie le représente assez bien. Ouais. Donc voilà. Et on voulait pas tomber dans un truc classique. Quelque chose qui bouge un peu, moderniser un peu tout ça. Quoi. Parce que ça peut être très bien comme ça. Je pense que c'est aussi pour pouvoir amener d'autres gens, un autre public à s'intéresser aussi à ça.
Et comme Nagui l'a esquissé, il y a beaucoup de vous aussi, parce qu'on parle de la matière première depuis tout
ça
à l'heure. Ces textes-là, leur contenu, leur portée.
Ouais. Vous ne pouvez pas vous empêcher de glisser, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez pas vous empêcher aussi.
Je pense que n'importe qui à ma place, justement, l'idée aussi de ne pas être sur un pupitre avec une douche sur la tête et tac. Ça me donne ces libertés-là aussi, quoi. Voilà, d'avoir les gens en face. Alors vous êtes venu à la première, on a fait des petits réglages sur le Olympe de Gouges. D'un seul coup, il y a une musique de Aaron Neville qui arrive. Aujourd'hui.
Ah ouais, d'accord. De toute façon, ça va évoluer forcément avec votre ressenti sur scène. Vous commencez à parler d'un texte sur la place des femmes et là, vous faites l'autodérision en disant, venant de moi, voilà, point de suspension.
Moi qui dis aux femmes,
Donc autodérision, et puis à côté de ça, quand il y a en effet des histoires de corruption avec des femmes de ministres ou d'hommes politiques ou des problèmes d'emploi fictif, vous rajoutez avec le « Mais même simplement des hochements de tête, des regards sur le public suffisent à donner un poids, une dimension extrêmement actuelle. C'est bien de le vivre aussi et de pas de rester forcément.
Parmi tous les paramètres qui m'ont incité à faire ça, c'est la sensation, quoi. Et donc, comme on l'exécute, c'est-à-dire cette lecture actée. Ouais, si tu le vis pas, tu passes à côté de tout. Et puis c'est écrit pour, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc très théâtral quand tu te tapes du Robespierre, le mec il envoie le pâté, quoi. Il y a rien à dire.
Et c'est là où votre voix joue. C'est là où le premier texte, quand vous arrivez avec votre voix rugissante, mais c'est pas le fait du bruit.
Non, ça vomit dans l'intensité.
Il y a la chair de poule, il y a le frisson de je me bats pour mon pays.
bruit, c'est fait du bruit.
Voilà. Ah, mais,
ça, voilà. Tu comprends la nuance.
Mais je, mais le problème, c'est que je ne les ai pas pour le faire.
Ah oui, voilà.
Ouais. Moi, j'en ai quatre. Les cordes vocales.
Nagui s'assied trop vite.
Mais ça colle bien avec un texte déclamé et avec une envie de trimain. Parce que j'imagine que quand on dit ces mots-là, on a envie d'haranguer les foules aussi et d'avoir une...
Bah, ils ont été faits pour, surtout.
Ils se lèvent et que ça crie, quoi.
Ils n'avaient pas de micro à l'époque, il faut y
déjà,
penser.
Déjà ça, ils n'avaient pas de micro. Et puis en plus, ils prenaient, enfin, ils haranguaient tel ou tel... Enfin, oui, oui, c'était fait pour, quoi. Et voilà, je leur ai dit, ils n'avaient pas de micro, contrairement à moi.
C'est proche du... Ça pourrait être proche du rap, du slam aussi.
Bah, si ça l'était, ça serait le parent pauvre, hein, en tout cas. Enfin, non, je veux dire, le parent... Non, le rap est le parent pauvre pour moi.
Pour, alors, je parlais de la forme.
Ouais. Alors, peut-être, ouais, le slam, limite, parce que le slam, c'est quelque chose.
La scansion.
Ouais, ça. Mais on a quelque chose, forcément, dans le rap. On a toujours un rythme derrière qui est très régulier. Donc,
Et c'est le cas aussi dans certains textes aussi. Il y a
un rythme, quoi. Mais ouais. le rythme bouge tout le temps, quoi. Il n'est pas que d'une manière, quoi. Alors que. Dans le rap, effectivement, on change de shuffle, on fait des contretemps, des choses comme ça, mais là, ça n'a rien à voir. Et le problème, ce qui différencie aussi cette histoire, c'est que dans la musique, quand on a un rythme derrière, ça aussi, de temps en temps, c'est 40%, de temps à autre, c'est 70% de ce qu'on est en train d'exécuter, quoi. Ça change, quoi. Alors que là, là, t'es tout seul, c'est toi qui fais grincer le truc, quoi.
Il y a des phrases qui résonnent et qui deviennent presque maintenant des sentences, des morales que vous avez retenues et qui vous parlent dans le texte que vous
lisez. Ouais, il y en a plein, mais il y a surtout il y a des endroits, par exemple, parce que quand vous me dites ça, je pense forcément à autre chose, sur la religion, ouais. Où on explique à un moment donné que
c'est formidable,
que par le biais de la religion, on a fouetté Prinelli, on a posé 7 fois la question à Campanella, et
on a torturé des gens
qui
disaient la vérité.
Voilà, et on a anathématisé un tel pour la morale, déjà rien que ce mot-là. Tu vois, donc il y en a plein des comme ça où à ce moment-là quand j'arrive, bam. Et donc de fait, j'ai appris encore plein de choses, quoi. Et ça, c'est mortel, quoi. C'est pas juste un truc où j'arrive, je le livre et voilà. C'est que
je sais pas
surtout,
qui
il y a des choses sur lesquelles je reviens moi-même et je me dis putain, j'avais pas saisi le. Voilà.
C'est le texte.
Donc
ça veut pas dire
que je ne comprends pas ce que je raconte. Hein. Ça veut dire que voilà.
Ah non, souvent vous comprenez, mais vous le vivez.
On le vit pas. Ouais. Enfin, voilà.
Ce texte donc, alors on dit texte de Pierre Grillet, on pourrait quand même dire aussi texte de Robespierre, Lamartine, Victor Hugo, mais c'est vrai que c'est Pierre qui a eu la très bonne idée.
En fait, si
de choisir.
Si vous voulez savoir, c'est que. Il m'a raconté, il revisitait pas mal d'écrivains comme ça, et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y en avait pas mal, qu'il y avait des hauts postes, et surtout qu'il y avait des orateurs, des tribuns, et ainsi de suite. D'où tout lui est venu l'idée de faire ça, en fait.
De vous choisir pour l'ouvrir à un autre public, vous dites aussi.
Ouais, exactement.
Ouais, et ça fonctionne. Jérémy Lipman en a fait la mise en scène. C'est les lundis à 20h et mardi à 19h, du 6 au 28 mars. Pourquoi il faut que ce soit si court et je trouve que plus on se rapprocherait des élections présidentielles, plus ça donnerait encore de sens, non?
Bah, pour l'instant, on en fait 8. C'est-à-dire que moi,
j'aurais plus affinité, donc si ça marche.
C'est un petit scoop, mais pour l'instant, il y a le directeur du Panthéon qui voudrait qu'on aille le faire dans la nef. Donc.
Parfait.
Par exemple.
Parfait.
Voilà. Joli cadre.
Je vous rappelle. Hein,
joli cadre.
Ah, bah, plus, ouais, non, mais ils sont tous là-bas, les gars.
Bien sûr. Enfin, les réveiller.
On va aller les chatouiller un peu, quoi.
Ça doit filer quand même la chair de poule de le faire dans un lieu aussi hanté, non?
Ben, si tu veux, tu montes au théâtre pour la première fois de ta vie tout seul, tu verras. Tu vois, déjà, c'est pas mal. Hein. Après, le reste... Non, mais je pense que j'ai presque envie de dire que, en fait, je chauffe les pneus au théâtre de l'atelier pour aller jouer au Panthéon. Donc ça devrait bien se passer après.
Donc les miquettes, vous parliez des miquettes.
Pour parler. C'est lui qui nous l'a proposé. Donc voilà.
Ouais. Et vous parliez des miquettes sur scène. C'est moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que vous voir vous comme ça, grand gaillard, avec tous ces textes et juste dire c'est la première. C'est une aventure folle en fait dans laquelle vous vous lancez. Vous avez encore possiblement le trac. C'est ça qui m'étonne.
Ben non, c'est pas... puis le track, c'est indéfinissable, mais c'est propre à chacun. Moi, j'ai un track électrique, c'est-à-dire je suis pressé d'y aller.
Ouais.
Voilà. Et je vous avoue qu'une fois que c'est défini, j'étais tout retourné, quoi. Non pas d'avoir exécuté ça, mais tous ces textes, surtout le dernier, Malraux, les trois dernières phrases, elles sont juste, je vais pas les donner là parce que c'est, ça serait dommage. Mais juste, c'est magnifique ce que ça dit, quoi. C'est un rapport avec la culture, voilà.
Où... Et quand il dit que quelques kilomètres d'autoroute, ça.
Alors,
il t'a dit qu'il veut pas le dire.
Moi, j'ai trouvé ça génial.
Mais ça, c'est magnifique pour les, voilà, voilà.
Ça paye.
C'est le prix.
36 maisons de la culture.
Voilà, c'est ça.
Ça, et la dernière phrase qui dit qu'on est les premiers à l'avoir fait. Alors donnons-nous la chance de pouvoir continuer toute cette histoire par rapport
qui
à la culture.
Qui fait la force de la France aussi.
Et voilà. Ça, je trouve ça...
C'est ses autoroutes.
Moi, ça me retourne.
Et le fait que Paris restera la place où on écoute ce qui est dit, où on écoute ce qui se passe. Ouais. Peut-être pas dans le monde du football, mais où on écoute ce qui se passe.
Faut arrêter de rigoler avec ça. Hein. C'est très sérieux ce qui se passe.
C'est pas sérieux, c'est ridicule. Hein. On peut en parler.
Moi, j'étais avec une amie espagnole hier quand j'ai vu le match et elle avait un sourire. J'avais pas besoin de la regarder, je sentais son sourire comme ça, comme ça là. J'avais comme une tumeur là. Ça me faisait pas rire.
À la 88e minute, on était qualifié et il y avait que 3-1. 88e minute.
Le football, c'est le football. Et puis bon,
c'est la tête.
Et puis on jouait pas contre n'importe qui non plus. Hein.
Ouais, mais ils étaient pas mentalement prêts.
Ils ont commencé très mal, très mou, très.
C'est des lopettes.
Non, maréchal, je vous interdis de prononcer ce mot qui est encore une fois banni de nos entrées.
C'est dans le dictionnaire, Nagui.
Je crois pas. Vos oreilles ont sifflé, Leïla Kaddour Boudadi, lorsqu'on vous annonçait la venue de Joëstar.
Oui, et quand je pense à vous, Joëstar, forcément, je pense à Paris sous les bombes. Pour moi, c'est l'album d'une vie, 19 morceaux. Difficile de choisir. Qu'est-ce qu'on attend? La fièvre. D'ailleurs, la fièvre, on peut la voir à la sortie du théâtre de l'Atelier après avoir entendu notamment pour moi le texte de Césaire. Je ne savais pas lequel choisir. J'ai pris plus jamais ça.
Les honneurs, la patrie, les conquêtes et les colonies. On a déjà vu le résultat de ces conneries. Alors va-t-on continuer à se laisser manœuvrer par la haine malsaine d'un déséquilibre mental? Je vous rappelle qu'il prône la ségrégation raciale. Je vous rappelle encore que cet homme n'est pas normal. Et ce, depuis la déconvenue de la guerre d'Al. Chéri qui n'a pas digéré. Mais nous on s'en bat les couilles, on n'était pas là. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour.
Je serais curieux d'entendre ce texte-là.
Alors justement, justement, j'y viens. Là, on a la musique qui nous ensorcelle. Je trouve que sur ce titre, plus jamais ça, on est pris dans une sorte de tourbillon et on se dit mais où va-t-on finir? Et le propos et la musique vont, à mon sens, dans la même direction. Et ce texte-là, pour revenir à vos propos tout à l'heure sur le rap qui pourrait être le parent pauvre, ben je le trouve pas très pauvre, pas du tout pauvre même le rap dans ce cas-là. Moi j'ai grandi avec ces textes-là et je trouve qu'ils ont peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années, dans plutôt même un demi-siècle, ils auront à mon sens une portée considérable, en espérant simplement qu'ils ne soient plus d'actualité, ce dont
tout à fait,
j'ai un peu peur.
Mais parce qu'aujourd'hui, on est plus dans la posture. C'est un peu aussi, ça correspond un peu à un espèce de différent générationnel où on est plus en surface et pas trop dans la profondeur, quoi. Voilà. Donc nous, à l'époque, on faisait du constat d'urgence. On avait la sensation d'avoir un média dans les mains, donc autant s'en servir pour faire quelque chose et pas juste, voilà.
On était en 95 et vous interpelliez la jeunesse. Il fallait que la jeunesse soit au rendez-vous. Et pourtant, en cherchant un peu, si on regarde de près, cette jeunesse, c'est elle qui vote le plus pour le Front National. Pour les dernières régionales, par exemple, au premier tour, le Front National était le premier parti chez les jeunes qui votent de 18 à 24 ans.
Leur premier vote, donc.
C'est ça peut être éventuellement leur premier vote, mais bon, de 18 à 24 ans, tu peux déjà avoir voté, mais peu importe, la question, c'est pas ça.
C'est un dimanche, les gars sortaient de boîte, non?
Et bien justement, en attendant Joëstar, dans ceux qui exercent...
Assez de platanes sur les routes...
Mais dans ceux, Joëstar, qui exercent vraiment leur droit de vote, les autres ne le font pas et ça les regarde, en tout cas... Chez ceux qui le font, c'est le Front National qui est le premier parti. Et généralement, on a tendance à reléguer le Front National à des personnes plus âgées. Et c'est important de dire que les jeunes y participent. C'était juste pour donner l'info comme ça en passant. Et vous dire merci, Joëstar, pour cette chanson qui, je pense, a éveillé aussi beaucoup de conscience et a fait de plein de jeunes gens des individus pensants et des citoyens agissants.
eh ben je prends pour mes camarades et moi, parce que je n'étais pas tout seul.
Voilà. Ben c'est pour vous tous.
Mais un jour, vos textes seront lus par Cyril Hanouna au Panthéon. Et... ça, ce sera la conséquence.
Enfin, sur le parvis, alors.
On reste à la porte. Et quand je pense à vous, Joe Star, changement d'ambiance. Mais moi, j'adore, vraiment. Et je suis très contente de le faire entendre là. Mais moi, je pense à elle.
Je suis partie un soir d'été.
Eh oui, madame.
Sans un regard sur le passé. Le passé.
La Rousseau.
Nicoletta. Nicoletta. Et qu'est-ce que ça fait plaisir, Joe Star, de vous entendre ou de vous lire parler de Nicoletta, avec qui vous avez travaillé. Oui. Alors racontez-nous la rencontre avec moi, je veux savoir comment ça se passe, Joe Star, Nicoletta.
C'était à la veillée mortuaire de Tiki Olgado.
Un mec génial, formidable comédien, un être humain formidable.
Tiki, formidable. Ouais.
Elle avait chanté Mamie Blue et j'étais là dans l'assistance et en l'entendant, ça faisait longtemps, moi c'est, j'ai l'âge d'avoir grandi avec ce morceau-là, quoi. Enfin, mon père m'écoutait ce morceau-là. Et donc voilà, et en l'écoutant comme ça, quelqu'un m'a poussé, il va faire une impro. Et j'ai dit, mais non, mais arrête, ça n'a aucun sens. Et j'ai quand même pris le micro et j'ai fait un truc comme ça vite fait, j'ai balbutié quelque chose. Et en le faisant, je me suis dit, mais faut adapter ce truc, quoi, c'est pas possible. Ça a le droit de perdurer encore, voilà. Et j'en ai parlé à la dame, et la dame m'a dit, mais elle est dans un enthousiasme, pas un anti-rouille en plus, donc voilà.
Elle en voit encore.
Elle en met 12 sous le capot, même encore aujourd'hui. Non, mais c'est pas ça. Et donc, 10 ans plus tard, je l'appelle et je lui dis, au fait, tu te rappelles que... Elle me dit, bah ouais. Et je lui dis, bah écoute, on l'a mis en place. On a déjà fait toute la prod. J'avais écrit... et je lui dis, et toi, t'es toujours d'accord? Elle m'a dit, bah ouais. Et elle est venue au studio le lendemain. Et donc, elle a pris l'humeur du truc et elle y est allée. Et elle a un V12 sous le capot encore aujourd'hui. Non, mais c'est pas pour rien que Ray Charles disait d'elle, c'est mon homologue européen.
C'est la seule voix, d'une blanche qui fait penser à une noire, c'est ce qu'il avait dit.
Ça rigole pas.
Et puis vous faites d'une pierre deux coups, parce que je crois que votre mère est très fan aussi.
Ouais, et puis en plus, c'est un morceau assez. Le morceau que moi j'ai écrit par-dessus est assez particulier, donc voilà, ouais.
Ouais. Oui, il est particulier.
J'en ai la larmichette, mais c'est de l'huile. Hein. C'est pas.
Joe Star ne pleure pas.
Voilà. Ouais. Il pète de la poussière. Voilà.
Je suis ravie de l'apprendre.
Non, mais moi, c'est pas ça.
C'est que
ça.
Ému, l'autre.
Mais parce que on est tous des fils d'une maman et qu'il y a un moment où forcément la maman.
Vous allez sortir d'autres,
la maman, ça résonne. Mais non, mais ce que j'avais envie.
Pourquoi le ciel est bleu?
Et l'eau, ça mouille. Mais ce que j'avais envie, c'était de l'écouter, justement, un petit bout.
Somme sur une bille, la force de parloir, ma mère a chopé plein de nouvelles rilles. Ici bas, le paradis et l'enfer sont derrière chaque mur. Je suis pas assez une personne des civils, c'est sûr. Mais comme ma vie intérieure sera toujours éternelle, je vis pour celle qui m'attend, m'a forgé sous son aile. L'amour sera toujours état de grâce jusqu'à ce qu'on me l'arrache. Je serai toujours aussi inachevé comme l'humanité sache que je connais ton blues, mamie. L'amour dont tu irradies, je te vois ma vie, mamie. Tes souffrances m'ont donné vie. Et je risque de finir seul avec mon putain d'égoïsme. Je risque de finir tout seul avec mon cynisme.
Voilà un petit excès de ce featuring de Nicoletta avec Joe Star dans le Mamie Blue. Voici l'humeur d'Alison Wheeler. From Wheeler and Wheeler.
Bon, vous le savez peut-être pas, mais je vais m'absenter pour travailler dans le sud de la France. Je serai donc pas à l'antenne pendant un petit moment.
Ah, ça va.
Quand j'y pense, déjà 25 chroniques à vos côtés, le temps passe tellement vite, Zarma. Et vous savez ce qu'on dit, il faut toujours partir sur une bonne note. Yeah! Voilà, c'est fini. Je vous souhaite une excellente journée.
Très synchro, les gars.
Non, pour de vrai, je me suis dit 2 mois, c'est rien. Et pourtant, ça peut être 2 mois qui vont changer nos vies. Notre boulot, un Nagui. On s'était dit rendez-vous dans 2 mois. Même jour, même heure, pas même président. On verra quand on aura voté si en deux mois tout a changé. Le jour va venir et moi j'ai peur. Je sais pourquoi je flippe. Les politiques c'est comme les strip-teasers. Toujours une couille qui dépasse du slip. C'est fou ce que le crépuscule d'élection rappelle le même crépuscule d'il y a 15 ans. Comme pour élire un délégué, faut choisir entre ceux qu'on redoublait. J'ai tellement peur que les extrêmes passent. Imagine que Marine elle fasse un mur de tellement de briques partout autour de Leïla et d'Ali Badou. On s'était dit rendez-vous dans deux mois, même jour, même heure, pas même président. On verra quand on aura voté si en deux mois tout a changé. Je n'ai jamais eu envie d'elle. Peut-être Marine nous virera-t-elle. Fini l'ambiance dans les couloirs, les chabites et les jeux à boire. Nagui, je veux pas que ton bureau soit repris par Philippot. Je veux pas le croiser dans l'ascenseur qui me dise avec son petit air moqueur. T'as plus de travail? Qu'est-ce que tu deviens? T'habites chez Daniel Mourin. Tes petites chansons là, c'était pas malin. Et toi Leïla, tu manges toujours notre pain?
Oui.
Heureuse de vous avoir les copains. Allez, venez me faire un câlin. On peut pas dire qu'on savait pas. Regardez chez les Américains. Dans la télé, je vois le reflet d'une élection devant moi. Elle part à gauche, je la suivrai. Si c'est à droite, on sera là. Bah oui, on sera là. On sera là. On s'était dit rendez-vous dans deux mois. On s'était dit rendez-vous dans deux mois.
Bravo, ouh, bravo.
Et vous allez me manquer, hein. Ça oh, fait mal.
Tu vas pas miauler là comme ça en direct. Et oui, c'est de la radio, donc ça sert à rien.
Ça sert à rien de chialer, c'est pour ma bande démo.
Bravo. Quelle traînée.
Mais
j'adore.
Ça, ça va pas.
J'ai dit j'adore.
Non, mais Alison, elle pourrait nous faire des chroniques à distance au téléphone, comme ça, depuis le sud de la France.
Je vais vous enregistrer des Sydney Love en mode cagole.
Je m'attendais avec Joey, que tu profites pour faire un featuring et que Sydney Love débarque.
Sydney Love.
Donc il en a rien à foutre de ton départ, en fait.
Ouais, c'est ça.
T'inquiète pas, j'ai une belle paire. Elle est là.
Mais n'importe quoi.
J'ai des boules. Mais je suis heureux pour toi parce que c'est synonyme de plaisir, non, de plaisir, de rôle au cinéma.
À la grande mode, je vais aller accoucher à Marseille.
Ah, d'accord.
Avec Pef, oui.
C'est ça.
Ce premier film art de tourner à la grande mode, à la fin de l'automne, je trouve ça touchant.
Joey Starr est sur scène, c'est l'un des événements dont on parle au théâtre en ce moment. 8 représentations exceptionnelles, éloquence à l'Assemblée, l'éloquence de Joey au service des textes d'auteurs qui ont marqué non seulement la politique mais carrément l'histoire de notre pays, voire du monde entier, puisque il est dit aussi ces textes-là illuminés, résonnés dans le monde entier, ça partait de Paris. Et là aussi ça pousse Joey à faire un clin d'œil sur Paris, parce que ça sonne, parce que vous aimez cette ville, vous l'avez souvent incarné. faut tout assumer.
Ah mais non, mais c'est assumé, mais t'es juste pas obligé. Voilà.
Ok, la BO de Joey Starr, quelques années comme ça, prise en musique, par exemple en 1983. Il y avait ça à la radio.
Ouais, il dit pas la Rousseau là. Il y avait ça, mais de toute façon personne ne pouvait échapper à ça. Ouais. En 83.
Et vous aimiez ou pas?
Ah, bah oui, bien sûr, bah oui, oui, oui.
Vous dansiez parce que vous étiez danseur.
Déjà ça, puis bon, non, mais c'était en plus, enfin pour plein de raisons, mais oui, j'aimais Michael Jackson, j'ai toujours aimé Michael Jackson. Ouais.
Le premier job, ça a été la danse, c'est-à-dire vous étiez mineur et vous aviez des jobs de.
À Shanghai, ouais.
C'est vrai?
Non, je rigole.
Non, mais à l'étranger, oui, à Milan.
À l'étranger, ouais,
je savais pas qu'il était mineur.
Il a été mineur danseur. D'accord. Et à l'étranger, il avait cartonné et vous gagniez.
J'ai commencé à danser en Italie, il y a longtemps.
Vous dansez encore?
Je suis musicien, donc il m'arrive de guincher, on va dire. de danser, c'est un grand mot, danser.
Enfin, si on vous voit danser dans certains films.
Ouais.
Dans Police de Maïwenn, on vous voit danser, vous êtes.
Oui, mais parce que là, je suis payé pour le faire. Ouais, ça m'arrive de danser, oui, et tout seul, quoi.
Et même au carnaval. Il s'est passé quoi au carnaval? Parce que vous êtes retrouvé, vous deviez danser 4 fois par jour sans être payé.
Au carnaval de Venise.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on était danseurs, mais j'étais très turbulent à l'époque. Je ne calculais pas les enjeux de ce que j'étais en train de faire. Donc du coup, ça s'est mal fini.
Voilà. Pour qui?
Ah, ça s'est mal fini. Non, mais après ça, j'ai rebondi. J'ai quand même rebondi et je me suis retrouvé à donner des cours de danse dans une des plus grosses des écoles de danse contemporaine de Milan pendant un an et demi. Et donc je donnais des cours d'électrique boogie et de stretching à des rombières. C'était assez donc j'ai appris l'italien comme ça.
Vous parlez italien?
Ouais, je parlais italien. Enfin, je parlais italien quasiment couramment, mais ça fait longtemps que je ne pratique plus.
J'ai perdu. 1989 et évidemment la naissance d'NTM.
Évitons toute erreur, j'attaque. Allez.
Ah ouais. Le moineau.
Ouais, mais le son était déjà là.
Ouais, mais je trouve que j'ai la voix d'une mycose. Un truc qui gratte et tu apprends après que tu as quelque chose, tu vois.
Le cri de la mycose.
Voilà, c'est ça, pas parler. C'est ça.
Pour resituer quand même, le rap était un petit mouvement à l'époque, dans les années 80. C'était un mouvement, mais enfin, c'était pas...
C'était un mouvement naissant, quoi.
Voilà. Est-ce que vous avez le souvenir de votre premier concert en tant qu'NTM?
Ouais.
C'est un truc qu'on peut pas oublier, j'imagine, non?
Ouais, c'était... Le premier concert, c'était à l'Élysée-Montmartre. Mmh. Et c'était... je sais pas si vous vous rappelez de ce mec qui s'appelait Childéric, un rookmout avec une coupe mulet.
Ah ouais, ouais, qui était sur la 5 et qui faisait des émissions musicales.
Ouais, exactement. Il animait... Ah non, c'est ça, je crois que c'est ça. Non, je confonds ça, c'est le deuxième. La première fois, c'était déjà les Montmartre, c'était pendant un truc fait par Nova, du vivant de Bigot et Massadian. Et en fait...
Bizot.
Et j'avais accepté pour les autres... Je me rappelle, parce que je connaissais Massadian, et j'ai dit, ok, on va le faire, mais tout ça pour lui faire fermer sa gueule, pour faire le relou. Et quand je suis rentré au quartier, j'ai dit aux autres, en fait, j'ai accepté de faire un concert. Je me rappelle la réponse de DJS qui m'a répondu, pourquoi faire? Pour aller chanter, pour aller se produire. Non, mais moi, j'ai pas envie. Et donc, pendant une semaine, nous, on t'avait rien demandé, c'est bon.
C'était en quelle année, ça?
Alors, c'était 80... je sais plus, 85 peut-être.
Ah oui, oui. Moi, j'aurais dit un peu.
La première fois que je vous ai vu, moi, c'était sketch de Carl Zero à Canada.
Oui,
il y a un grand souvenir, ça.
Ouais. Ah oui, non, ça, c'est
formidable.
C'est intérieur, ça.
Formidable.
Oui, on était tous déguisés en. on avait des moules couilles. tous déguisés en.
Des collants moules burnes.
Magnifique. Ouais, c'était assez drôle. Ouais.
Et Je Rappe s'est retrouvé donc sur la compilation Rap Attitude. Vous êtes ensuite parti en tournée en province avec d'autres artistes de cette compil.
Ah non, nous, on a été interdits. De province, nous.
Ah, c'est pas la province ?
Non, les autres ont fait, pas nous. D'accord ? La première date de Paris, ça s'est fini à coup de tabouret, donc du coup, nous, on nous a interdit.
Voilà. C'est la période turbulence, c'est ça.
Ils se sont dit, décentralisation, c'est pas pour NTM.
Exactement.
Quoi. Non.
On n'était pas prêts.
En octobre 90, vous avez été en concert à Saint-Denis et au stade ?
Non, on n'a jamais joué au Stade de France. En 90, on a dû jouer au stade Auguste Delaune.
Mais de Saint-Denis.
De Saint-Denis.
Voilà, c'est pas le stade de France, mais c'est le stade de Saint-Denis.
Voilà.
En 90. Là mais je crois que le stade de France n'existait pas en 90 en plus. Ce qui aide à ne pas y aller d'ailleurs.
C'est un pêche en tout cas.
Il est marrant ce mec.
En 2005.
Ouais, gentiment alors.
Outcast. Heya. Mais 2005, c'est l'année où Joey devient papa.
Ouais.
Avec les fameuses, justement, vous dites, j'aurais peut-être dû raconter un peu plus souvent les histoires.
Les histoires, ouais.
Ça change forcément, évidemment, une vie d'être papa, mais ça changeait quoi chez vous en particulier d'être papa?
C'est-à-dire qu'avant, je faisais tout ce que j'adorais faire, mais une fois arrivé chez moi, j'avais l'impression qu'il se passait plus rien, quoi. Donc je me faisais chier le biscuit, pardon. Et je m'emmerdais, quoi. Et là, d'un seul coup, tu... comme je sais cuisiner, je sais m'occuper d'une maison, tout ça, t'es avec quelqu'un qui on demande qui est la maman parce qu'elle est enceinte, et puis d'un seul coup t'as l'impression de servir à quelque chose une fois arrivé chez toi.
Et dans l'éducation que vous donnez à votre gamin, qui est un grand ado aujourd'hui...
Il a 11 ans, ouais.
Est-ce que... Ah, 2005.
C'est ça.
Il a 11 ans.
D'accord. Ouais, vous devez mieux savoir que moi, là, je
crois qu'il est mieux placé que
ça. Il a 11 ans,
il faut savoir, qu'il chose du 44. Donc, de fait, je crois que l'adolescence, ça va passer super vite, à mon avis.
Mais Nagui, il a lu à l'envers. Il a cru qu'il avait 44 ans, qu'il chaussait du 11.
C'est ça.
La fiche est à l'envers.
Allez, 2010. Alors, on écoutait ça à la radio en 2010.
Ah bon, parce que je me disais, c'est moi qui ai choisi ça.
Non.
D'accord.
Non.
Mais moi, c'est pas que je déteste.
Mais je voulais savoir ce que vous en pensiez, ouais.
Non, je le trouve très créatif. Non, c'est
parce que danseur aussi dans les chorés, dans ce qu'il a proposé dans les clips sur scène.
Ouais, non, mais je trouve qu'il est complet, ouais, il est plutôt complet, ouais, plutôt complet et puis plutôt brillant, quoi. Donc ouais, je trouve ça assez intéressant ce qu'il fait. Ouais.
En 2010, vous êtes nommé au César dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour le bal des actrices. À ce moment-là, vous vous dites, ça y est, je rentre dans la famille. Il n'y a plus de côté imposteur ou de doute.
Non, je me suis jamais dit ça. Hein.
Vous êtes posé la question ou pas?
Non, j'y suis allé.
Sur votre place.
Non, je me suis jamais dit ça. Provenant que j'ai bien fait, parce que alors je vous parle, ça fait quand même quasiment un an et demi que j'ai pas tourné, même presque deux ans que j'ai pas tourné pour le cinéma, donc.
C'est bizarre ça, mais pourquoi? Parce que vous voulez pas ou parce que ce qu'on vous propose ne vous plaît pas?
Je veux pas, t'es mignon.
Non, mais ce qu'on vous propose ne vous plaît pas peut-être.
Pourquoi? C'est pas moi qu'il faut demander, hein.
Voilà. J'ai peur.
Je pense qu'aujourd'hui, mais pour moi, il y a aussi un autre facteur, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la grosse impression que si je veux travailler, c'est pas une généralité ce que je vais faire, mais que ce sera plutôt la nouvelle génération parce qu'ils ont une lecture un peu plus exacte du côté cosmopolite de la France, quoi. Et que je pense qu'il y a encore toute une famille, à mon avis, qui travaille entre elles, et puis voilà.
Enfin, il y a eu Maïwenn,
tu connais les origines de Maïwenn, on lui fait pas peur, nous. Tu vois, il y a d'autres à qui on fait peur et qu'on n'intéresse pas. Puis en plus, moi j'arrive de la musique, ce qui sous-entend que j'ai cette réputation d'électron libre.
C'est pour ça que je parle des Césars. C'est-à-dire que dès l'instant, même si vous venez des musiques, de la musique, le fait d'être nommé au César,
ça veut dire
que vous êtes adoubé, ça y est.
Je vais te répondre en fait, sincèrement. C'est que moi je suis déjà plus porté par quelque chose où pour moi faire du cinéma, c'est quand même l'art dans lequel il y a tous les arts réunis, quoi. Et déjà, juste d'en être là, ça me suffit, ça. Pour moi, déjà. Après, le reste, c'est pas grave, quoi. Parce que...
Je suis scotché que vous n'ayez pas de proposition qui est intéressante depuis un an ou un an et demi.
C'est comme ça.
Je trouve ça dingue.
C'est comme ça. Puis bon, et heureusement, j'ai un vrai métier à côté. Je fais de la musique. Heureusement, d'ailleurs. Non, mais voilà. Mais c'est vrai ce que je dis. Hein. C'est pas pour faire ma victime ou quoi que ce soit, mais c'est juste vrai. Là, j'ai bossé avec Aknin. Aknin, c'est un malade. Tu le rencontres, tu vois bien que c'est un doux dingue dans ses yeux, dans sa façon de parler. La dernière personne avec qui j'ai bossé, c'est Lola Doyon. Pareil, Lola, elle a vu autre chose, quoi. Voilà.
On a voulu continuer de réfléchir à l'éloquence à l'Assemblée, donc cette pièce portée, cette lecture faite par Joe Star. On a demandé à Jean Garrigue, merci Jean de venir à notre micro. Vous êtes historien, professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po, président du comité d'histoire parlementaire et politique. On parlait tout à l'heure...
Bon, je vais pouvoir y aller alors.
On parlait tout à l'heure...
Non, au contraire, pas du tout.
Tu vas voir.
Au contraire.
On parlait du choix des textes lus par Joe Star, Lamartine, Victor Hugo, L'Âme de Gouges, Jean Jaurès, Clémenceau, Malraux... Et en évoquant et en disant la fameuse phrase qui m'énerve, moi, c'était mieux avant, mais qui marche pas dans tous les domaines, mais la force est de reconnaître que il y avait une écriture et une force oratoire différente.
Ouais. Une déperdition qualitative, on va dire. C'est vrai que je trouve que le choix, alors j'ai pas vu le spectacle et ça me donne très envie de le voir parce que franchement, quand on m'a demandé de réfléchir à un certain nombre de discours là pour l'émission, j'avais à peu près le même choix. C'est Robespierre, Lamartine, Victor Hugo. Alors, on parlait tout à l'heure de la loi de 1934, c'est pas la seule explication. C'est-à-dire que, bon...
Ce sont plus des individus
mais
qui veulent s'exprimer, mais des représentants de groupe. Ouais.
Deux choses majeures, à mon avis. Ce sont des gens qui sont confrontés à une sorte de dramaturgie de l'histoire, à des choses qui sont très fortes. Des crises, des guerres, des révolutions.
Parce que les grands discours ne viennent que de situations graves ou de moments importants, de grands virages de la planète.
Pour la plupart, ils sont écrits en réaction à, quoi, voilà, effectivement.
Les enjeux sont majeurs. Les enjeux sont profonds. D'ailleurs,
le plus beau discours de l'année, c'est le renoncement de François Hollande, quand même.
Par exemple, on voit
c'est vrai.
Où il y avait celui de Christine Taubira aussi.
Oui, aussi, mais je veux dire, c'est dans des grands moments, des moments clés.
Ouais. Christiane Taubira, le plus beau, à mon sens, c'est celui de 1999 sur l'esclavage comme crime contre l'humanité, qui a d'ailleurs, inspiré d'autres choses qui sont moins valides, mais bref. Mais il y avait à la fois ces moments dramatiques de l'histoire qui faisaient qu'instantanément on allait vers les hauteurs, et puis il y avait une culture très différente de la nôtre. Une culture humaniste, nourrie de références historiques, littéraires, philosophiques.
Plus citoyen,
c'est vrai que,
plus citoyen que l'homme
politique d'aujourd'hui. Moyen d'aujourd'hui, c'est plus un apparatchik, c'est plus un VRP, mais c'est pas quelqu'un qui a la culture de ces hommes-là, dont beaucoup d'ailleurs sont eux-mêmes des écrivains. Ouais, bon, on a Lamartine, Victor Hugo, André Malraux, c'est quand même là des personnages surplombants.
Alors le fait que les discours peut-être aujourd'hui en pleine période présidentielle sont un tout petit peu plus édulcorés, c'est parce qu'ils veulent plaire à tout le monde. Chacun ne veut, on veut pas froisser, on veut pas choquer, donc on est moins dirigé, moins pointu.
Ah oui, c'est sûr que le discours aujourd'hui, c'est un discours extrêmement contrôlé par les communicants, par ce qu'on appelle les éléments de langage, par quelquefois alors le souci de faire le buzz,
des avocats
exactement. Ouais, ouais. Ça aussi c'est très codifié. Le souci de faire des petits buzz, je veux dire, qui ont finalement pas trop d'importance sur le plan du fond. Donc tout ça fait que ce discours-là, il s'est beaucoup appauvri, oui, c'est sûr.
Leïla ?
Jean, j'ai une question. Quand on entend la sélection de textes qui sont lus et joués par Joëstar, je suis assez frappée par, en effet, la qualité d'écriture et même parfois la difficulté de compréhension. C'est-à-dire qu'il faut être bien présent. À l'époque, ces textes-là s'adressaient aussi au peuple. J'imagine que le peuple n'était pas forcément plus éduqué qu'aujourd'hui. Est-ce à dire qu'il laissait quand même une bonne partie de l'auditoire sur la touche ?
Ah, c'est compliqué. C'est vrai que les discours de cette époque-là, malgré tout, il y a un entre-soi quand même de leur réception. Mais en même temps, vous savez, les discours jusqu'à une date assez récente, d'ailleurs, tout ce qui était débat parlementaire, c'était publié quasiment in extenso dans la presse, même Le Monde dans les années 60. Vous avez de très très beaux débats, par exemple, entre Pompidou et Mitterrand. Ça n'a aucun rapport avec ce qui se fait maintenant. C'est vraiment du très très haut niveau. Oui. Et les gens avaient le compte-rendu de ça. Et comme les gens lisaient beaucoup plus les journaux qu'aujourd'hui, la presse écrite, eh bien c'était diffusé pour des millions de gens. Et on se faisait lire les discours à la veillée au 19e siècle. On se faisait lire. Et donc on savait ce qu'avait dit Lamartine, on savait ce qu'avait dit Victor Hugo. Alors évidemment, on n'allait pas dans tous les détails, toutes les références gréco-latines, mais on voyait bien l'esprit de tout ça.
Quand vous, en entendant ces noms-là, on se rend compte qu'ils sont des auteurs qui ont leur place dans la littérature, les Hugo, les Lamartine, peut-être pas tous, peut-être pas Robespierre, mais est-ce que ce sont les auteurs justement qui font défaut aujourd'hui parce qu'ils sont cachés derrière des orateurs et ce sont plus forcément les deux qui font le même travail?
Bah, vous avez eu de bons auteurs, pour par exemple Christine Albanel, qui avait fait le discours de Chirac, le fameux discours du Veldiv, qui est peut-être le moment fort de la présidence. Si on doit retenir une chose des deux présidents de Chirac, c'est peut-être ce discours qui reconnaît les fautes.
Il y a aussi
le bruit l'odeur.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée.
Le bruit l'odeur.
Je pense qu'il avait pris un petit coup dans le nez avant. Ouais, ça.
On peut être à jeun pour dire des trucs comme ça aussi.
Ça m'en touche une sans secouer l'autre, mais c'est dans un autre registre. C'est aussi.
Non, mais là, on aborde la géométrie.
J'aime bien, Jean, il est drôle.
Ça, c'est dans Élysée Circus.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée, qui était vachement bien. Ça, c'est un climax. Non, mais et dans les grands auteurs, je voulais vous faire aussi écouter.
Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble.
Alors, faut préciser que ça a été...
C'est un super sketch, hein, de Villepin, Richard Lornac.
Ça a été c'est une musique, la musique est d'Arnaud Florent Didier, ça a été, la musique, il l'a faite tout de suite après que le discours ait été prononcé. Il n'y avait aucune autre envie que de le mettre sur Internet et de le diffuser sur la force. Mais c'est vrai que ce discours de Villepin, on aime ou on n'aime pas la musique, peu importe, mais c'est pour montrer qu'il y avait une montée...
Trouvez-lui un job, au mec, là.
Non, mais c'est un discours.
Il y a une puissance, y a une vraie puissance dans le discours.
Oui, mais c'est un discours qui est parce qu'il est transcendé par un moment d'histoire, parce que c'est est-ce qu'on va s'engager en Irak ou pas, et que là, on prend la décision de ne pas suivre les États-Unis, ce qui quand même historiquement est quelque chose d'assez fort, et puis parce que Villepin lui-même est quelqu'un qui est habité par l'histoire, il a beaucoup écrit sur Napoléon, les 100 jours, etc. Donc c'est quelqu'un qui a cette conscience aiguë de l'histoire. On y revient souvent, hein. On y revient toujours.
Il sait de quoi il parle.
Bah, il sait de quoi il parle, il a une sorte de profondeur par rapport aux événements, bon, qui est quelque chose qui manque singulièrement aujourd'hui.
Et puis c'était quand même rafraîchissant de voir aussi les images. Je crois qu'à l'époque c'était Colin Powell qui représentait les États-Unis, qui était quand même un petit garçon qui est en train de se faire engueuler et qui bronchait pas. Ouais. Ce qui est rare pour un Américain.
Vous signez Jean Garrigue, vous co-signez avec Jean Ruhlmann, Élysée Circus, une histoire drôle et cruelle des présidentielles, il y a vraiment de quoi rire.
Ah ben là oui, parce que alors nous on a pris le j'allais dire postulat inverse, c'est-à-dire de prendre au contraire des petites phrases qui sont là pour faire rire souvent, pour provoquer, pour faire le buzz, mais aussi qui en disent quand même très très long et qui sont me semble-t-il l'épine dorsale de ce qu'est la vie politique. Bizarrement c'est quand même à travers le mot que tout ça avance. Les campagnes présidentielles, il y a des effets d'image, mais ce sont les mots qui font progresser la politique.
Des attaques, des provocations, des vacheries, évidemment, voilà. Comme celle sur l'heure d'été que l'on va connaître dans deux semaines, je crois que ça sera l'heure d'été. L'heure d'été aura surtout un avantage, c'est une heure de moins de Sarkozy. Ouais. Qui a dit ça?
Mais c'est Monsieur Cazeneuve, si je me souviens bien.
Il y a le fameux mois président, évidemment, qui avait été préparé.
L'anaphore présidentielle. Bon, mais finalement, tout ça, c'est quand même un peu plat par rapport à ce qui pouvait être fait du temps de Lamartine ou de Victor Hugo.
Le monopole du... Vous n'avez pas le monopole du...
Alors ça, c'est déjà plus important. Ou quand Mitterrand, en 81...
C'était Mitterrand Chirac,
voilà, quand François Mitterrand dit à Giscard, ou plutôt aux électeurs, Valérie Giscard d'Estaing nous présente sa candidature... non, je ne sais plus ce qu'il a dit exactement, d'ailleurs. Non, c'est pas ça qu'il a dit, je dis une bêtise. On aurait préféré qu'il nous présente sa démission. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont... En une petite phrase, on peut résumer beaucoup de choses.
Oui, mais on est dans l'ordre du jeu de mots par moment, et puis il y a d'autres phrases qui sont un peu plus grandes, tout en étant un peu aussi vache.
Il y a quand même des moments géniaux, ouais. Hein, quand Giscard dit « Monsieur Mitterrand, vous êtes l'homme du passé », Mitterrand dit « Vous êtes l'homme du passif ».
Vous êtes l'homme du passif.
Violence.
Mais c'est comme les clashs qu'il peut y avoir entre deux rappeurs sur une scène aussi. Quoi. Ouais, il faut envoyer au bon moment la bonne phrase dans le bon tempo.
On appelle ça des punchlines, sinon.
Punch.
Ce genre de...
Voilà, là, d'accord, il est en train de vous lâcher.
Les... C'est une vieille histoire, Joey et moi. L'Élysée Circus.
C'est ce qui n'existe que dans ta tête.
Oh,
non, en fait, je finis juste ces phrases, moi. C'est pas des punchlines.
C'est chez assistant de vie, quoi.
Voilà. C'est chez Talendier, les bons mots pour gagner pour perdre. Élysée Circus, à lire. C'est drôle. Et en même temps, c'est vraiment le reflet de notre vie politique. Et je pense qu'il y aura un volume 2 qui va arriver avec tout ce qui se passe en ce moment.
Celle de 2017, là, elle est intense.
Elle est comme on l'a jamais vécu, comme vous ne l'avez jamais vécu cette élection.
Ah oui, là je veux dire que moi je la commande souvent, on m'invite sur quelques plateaux de télévision et là il y a du travail quasiment tous les jours et beaucoup de surprises.
C'est bien pour la démocratie ou c'est grave ce qui se passe?
c'est à la fois grave, et moi je pense que c'est le tournant historique depuis une quarantaine d'années. C'est maintenant que tout est à refonder. J'espère que le rendez-vous va pas être manqué, parce que il y a plein d'idées, dans tous les camps d'ailleurs, il y a plein d'idées pour refonder notre démocratie. Pour l'instant, ça a été un tout petit peu obscurci par beaucoup de choses, par les affaires et tout, mais je pense que c'est un moment décisif, celle de 2017. On était parti en 2007, on a cru que ça allait un tout petit peu être réenchanté, tout ça, avec d'un côté Sarko, de l'autre côté Ségolène Royal. On s'est aperçu que l'alternance, ça n'avait pas fonctionné. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un tournant. On change de civilisation. Les gens ont besoin d'une autre forme de démocratie. Donc il ne faut pas manquer le rendez-vous, à mon sens.
Et pas manquer le rendez-vous, ça veut dire aller voter. Quel que soit le choix du vote, en tout cas, ne pas faire que ça passe inaperçu et qu'on rate ce rendez-vous et ce virage. Merci, Jean-Garrigue, d'être venu à ce micro.
On
reste avec
Joe
et Star, notre invité jusqu'à midi et demi sur Inter pour parler de l'éloquence présidentielle. On vous demande de cautionner, de soutenir un candidat. Vous avez un engagement politique?
Oui, qui n'engage que moi. Mais à l'époque d'Inter, il y a eu des tentatives d'approche.
Et cette année?
Non, aujourd'hui, mais ils ont fini avec moi. Depuis que je suis allé faire du placard, tout ça, c'est fini, tout ça. Mais on oublie que moi, je ne suis qu'artiste, mais que beaucoup de par exemple, on a enlevé Clémenceau, mais pour des raisons tout autres. Mais par exemple, que tous ces gens n'étaient pas non plus complètement parfaits à ces époques-là. Par exemple, Clémenceau, lui comptait plus de 800 maîtresses. Il a harcelé la principale pendant des lustres jusqu'aux États-Unis. Enfin,
puis son ex-femme, il s'est comporté comme un
salaud. Ouais, voilà,
alors que c'était un mec extraordinaire.
Vous savez que Clémenceau, à 80 ans, est tombé amoureux d'une femme qui avait la moitié de son âge. Et il lui a écrit pendant 4 ou 5 ans des lettres tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est magnifique.
Heureusement, il nous reste Denis Baupin.
C'est la bande originale avec Leïla Kadour-Boudadi, Jason Wheeler, Daniel Morin, Albert Algout, Charles Mac est au clavier, et notre invité, Joe Star.
Albert et son gobelet, quoi. C'est quelque chose de...
Impossible d'imiter le cri de Joey. C'est impossible.
Impossible. Pour ça que j'ai recours au gobelet.
En plus, vous tapez sur...
mettre un peu de rhum dedans.
C'est ça le secret.
Ah, bonne idée.
Ouais. Éloquence à l'Assemblée, des représentations exceptionnelles. En ce moment, c'est au Théâtre de l'Atelier. Je pense avoir tout dit, sauf l'adresse, qui est quand même une belle bêtise. Au Théâtre de l'Atelier, la mise en scène de Jérémy Lipman, le choix de Pierre Grillet. Pierre Grillet étant un auteur de pièces et également de chansons et de textes. Je ne sais pas d'ailleurs à quelle occasion vous avez croisé la route de Pierre Grillet. C'était dans le monde de la musique avant ou c'était là pour cette pièce?
Ah non, c'était une première pour moi.
D'accord. Et il a choisi.
Je connais son pedigree.
Ouais. Et il a choisi des textes de grands auteurs comme Tocqueville, Robespierre, Lamartine, Victor Hugo et autres. Parce qu'il y en a combien en tout, oui.
Il y en a 9, je crois.
Hein, ça, 9, 10. Malraux, Jaurès, Hugo, Robespierre, Lamartine, j'ai déjà dit.
Olympe de Gouges.
Olympe de Gouges, Césaire et Madame Simone Veil.
L'abbé Grégoire, non?
L'abbé Grégoire aussi. Ouais.
Est-ce qu'il y a des députés qui sont venus ou qui comptent venir?
Hier, il y avait... j'ai oublié son nom. Il y en avait un, ouais.
Il y en a un qui pourrait venir. C'est Jean-Louis Debré.
Un mec de droite.
Jean-Louis Debré, il pourrait venir. Il est de droite parce qu'il avait fait la préface. J'ai le bouquin ici. Les grands discours parlementaires de la Troisième République, dans lesquels on trouve certains des textes. C'est Assemblée nationale, Armand Collin. Je cite ça au passage.
D'accord. C'est Henri Guénaud qui est venu vous voir hier.
Guénaud, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je ne me rappelais pas.
Il a aimé?
Hein?
Il a aimé?
Je n'en sais rien.
Ah, il n'est pas venu vous voir?
Ah ben, il m'a tendu un sandwich mouillé en guise de main.
Mais c'est surtout lui qui avait fait l'article sur l'Afrique que Nicolas Sarkozy avait prononcé.
Le discours.
Le fameux
discours
la
où l'Afrique
quoi.
N'était pas entrée dans l'histoire. C'est ça. Avec l'homme noir.
L'homme africain n'était pas entré.
Il est venu se flageller, je ne sais pas. pas l'idée, alors. Bon.
Voici l'humeur de Daniel Morin.
Ah, quand même.
Daniel.
Bon, cette fois, c'est sûr, hein, la messe est dite, même s'il veut plus, il a plus le choix, ça va être Macron le prochain président. Voilà. Selon un dernier sondage, il est quasiment au même niveau que Marine Le Pen. Au premier tour, il devrait lui mettre une tôle au sol.
Ah, va pas nous porter la poisse, toi.
Comment ça?
Marine, c'est le seul espoir pour ce pays pourri.
par les cocos depuis 5 ans.
Calmez-vous, Maréchal, ça devient gênant, tout le monde vous entend.
Eh ben quoi ?
Ben, partez, laissez-moi faire ma chronique.
Désolé,
je disais, notre prochain président, c'est Macron, c'est plié, je sais, voilà, c'est comme s'il y avait des pouvoirs magiques, c'est très très impressionnant. Je suis sûr que demain dans la presse, si on apprend qu'il a comme attaché ministériel son poisson rouge payé 20 000 boules par mois, les Français ne l'en voudraient pas. Les Français se diraient, oh c'est pas grave, il traite bien les animaux, lui au moins, on pourra apprendre qu'il consomme 2 kilos de coke par jour, les Français ne l'en voudraient pas, et diraient, oh c'est pas grave, j'ai entendu dire que Nagui était à 3 kilos. Bon bref, il a installé au sommet, il ne redescend
pas. Hola, hola muchachos y muchachas.
Qu'est-ce qui vous arrive, Père Albert ? Pourquoi vous parlez espagnol ?
J'arrive de Barcelone.
Aïe, qu'est-ce que vous faisiez là-bas ?
J'étais parti soutenir le PSG.
Ah non, 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 on va pas parler de ça, ça me déprime.
Ah. Oh nom de Dieu, comme on dit au diocèse, quel brinlé ! On se croirait chez les scouts.
J'imagine qu'après le match, vous avez été consolé, les joueurs parisiens ?
Mais que dalle, je suis pas un loser.
Vous êtes rentré à l'hôtel pour pleurer cette cruelle défaite, j'espère.
Mais pas du tout, j'ai été faire la fête avec les Barcelonais.
Traître.
Oh, ta gueule.
Comment ça, ta gueule ?
Mais oui, merde à la fin, ta gueule, Daniel. Les Espagnols ont bien joué. J'ai été fêter ça avec eux.
C'était bien ?
Non, c'était génial. Ah ça, l'Espagnol, c'est moche, mais ça a le sens de la fête.
C'est quoi votre analyse du match d'hier ?
Très beau.
Parler du jeu ?
Non. Des fessiers catalans. Le catalan, il a de petites pattes, il a le cul tout en muscles, ça fait deux boules toutes dures, toutes compactes, ça lui donne un fouetté de bassin incomparable. A contrario, le parisien qui a de longues jambes fines a le cul mou.
Belle analyse du jeu.
Merci, merci.
Oui, je vous en prie. Et vous avez fait la fête avec eux en ville, à l'hôtel, en boîte
Non, non, dans le vestiaire, dès la fin du match. J'ai été prendre la douche avec eux. Ils étaient heureux, mais heureux. On a chanté « Viva España ». Après, on nous a apporté de la sangria. J'ai bu cul sec, très spiché. J'étais saoul comme un socialiste du Pas-de-Calais.
Bonne soirée.
Excellente. Ils m'ont tous fracassé à grands coups de latte.
Ben pourquoi ça ?
Ben, quand je me suis déshabillé, pour être plus à l'aise, j'avais oublié que je portais mon slip de pédophile hooligan parisien.
Mais c'est quoi ce truc, le slip de pédophile hooligan parisien ?
C'est un slip sur lequel il y a marqué « Papy est magique ».
Ah oui, oui, je vois.
Ah oui, ça les a choqués. Ils m'ont massacré dans les sanitaires. Coup de pompe, coup de boule, il y en a un à la fin, il m'a cassé un lavabo sur la tronche. Je pissais le sang, j'avais l'œil droit qui sortait par l'oreille gauche.
Vous avez fini à l'hosto ?
Non, j'ai mis un sparadrap, j'avais pas le temps, j'avais un avion à prendre.
Ça a été le voyage ?
Oui, super, j'ai voyagé avec l'équipe du PSG.
Ah, et bonne ambiance là.
Formidable ! Quand je leur ai dit que j'avais fait la fête avec les Barcelonais, ça les a rendus dingos, ils m'ont tous cogné comme des furieux.
Bah, ça a pas dû vous arranger ?
Eh ben, figure-toi qu'il y en a un qui m'a mis un coup d'extincteur dans l'oreille, ça m'a remis l'œil en place.
Ah, vive le sport alors. Bonne nouvelle, à demain.
Merci, Albert, avec vous, d'aimer.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet une photo qui circule en ce moment. C'est une photo qui date du match aller, donc, où il y a Adrien Rabiot et Kurosawa qui sont au contrôle antidopage. Et qui sont au contrôle antidopage et ils font un selfie et il y a Adrien Rabiot qui monte 4 parce que Paris avait gagné avec 4 buts. 4 et juste derrière, Kurosawa fait le signe de la victoire. Et la photo, évidemment, est retweeté par Neymar en faisant 4 plus 2 égale 6 et avec le smiley derrière. Donc ah, on s'en bien. Prend même dans...
Quel connard ce Brésilien.
Non, non, et c'est lui qui a tout fait, il a super bien joué. Super bien joué.
J'en ai posté une autre, moi, où on voit Di Maria qui tient un pot de vaseline.
Voilà, c'est ça. C'est
ah, pour hydrater les couches supérieures de l'épiderme, c'est ça.
Voilà, parce, écoutez, vous avez l'air au courant.
Ouais. Ou... Ah oui.
Pour en revenir à l'éloquence, n'est-ce pas, notamment l'éloquence à l'Assemblée, il y a cette phrase de Victor Hugo que vous dites sur l'importance du vote. Vous voulez la lire vous, Joey, ou elle est juste là, cette partie-là.
Donc le vote, Hugo. Il y a un jour dans l'année où le gagne-pain, le journalier, le manœuvre, l'homme qui traîne des fardeaux, l'homme qui casse des pierres au bord des routes, juge le Sénat, prend dans sa main, durci par le travail, les ministres, les représentants, le président de la République et dit « La puissance, c'est moi ».
De l'importance donc d'aller voter, c'est ça. Le moment où tout le monde a le pouvoir, c'est quand il faut voter et aller voter, encore une fois, voter pour qui vous voulez.
Mais c'est pas un petit peu déprimant, ces textes justement qui sont assez anciens et qui résonnent de façon très contemporaine actuellement.
Bah non,
mais on n'a pas l'impression que ça n'a servi à rien au final.
Mais attends, de dire à chaque élection que le pouvoir est au peuple et c'est le moment où ils peuvent voter et décider.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est dit, ça se répète.
Mais ça se répète à chaque élection. C'est vrai.
On ne comprend pas.
Ce qui s'incrivait aussi avec ça, c'est que être un citoyen, c'est pas juste ce jour-là, quoi. C'est aussi s'inscrire dans la vie politique. Enfin, descendre dans la rue quand il le faut, réagir, enfin, faire bouger les choses au possible, s'intéresser, s'impliquer, ainsi de suite, quoi. Je crois que c'est aussi ça. Je pense que c'est ce qu'on nous omet souvent de dire aussi.
Voilà. Et vous regardez l'actualité, vous suivez l'actualité. Quel genre de consommateur?
Ah bah j'ai envie d'aller voter Gandhi, hein, là.
Donc vous suivez de façon attentive l'actualité.
Ouais. Et donc, oui.
Non, c'est justement savoir quel est vous en tant qu'individu.
Quel citoyen vous êtes, c'est ça?
Votre côté citoyen, sans vous demander, je m'en moque de savoir pour qui vous votez, en fait, mais juste savoir comment vous vous tenez au courant, quelles sont vos colères aussi, et vos résignations.
Bah déjà, je m'intéresse à ce qui se passe par le biais des journaux anxiogènes auxquels on a accès, voilà. Et puis, j'ai encore des gens autour de moi qui, eux, j'allais dire font l'actu, sont s'intéressent à voilà,
qui filtrent un peu ce que vous
des journalistes, des gens des gens qui ont une certaine pertinence, qui sont pas toujours très objectifs aussi, mais voilà, c'est je fais le tri aussi et voilà quoi, on fait encore débat autour de ce qu'on voit, de ce qu'on capte. On a des débats autour de ça, c'est pas genre je regarde et puis après je vais me taper mon jambon et ma purée quoi.
Mais le changement ça commence aussi chez soi, parce que tout à l'heure je vous entendais, vous faites la cuisine.
Ouais.
Non mais je suis sérieux. Mm-hmm. Les gens qui ont des grands propos révolutionnaires et qui parfois chez eux se comportent comme les derniers des réacs.
Des goujats.
Ça commence dans la vie quotidienne.
Mais Nagui a des côtés sympas aussi.
L'éloquence à l'Assemblée, de l'urgence en tout cas de ces textes, de leur intelligence.
Il fait très bien la chouchouka en plus.
C'est au théâtre de l'Atelier.
Sexuel ne regarde pas.
Je rajoute un peu des œufs.
Je mets des œufs.
L'éloquence à l'Assemblée. Donc en tout cas Daniel, on voit que notre histoire a été marquée par les grands discours. Il est essentiel pour l'avenir de justement pas les oublier, de les garder présents, de les faire revivre, ils sont toujours là.
Wow, nom de Dieu, vous êtes diaboliquement génial, monsieur Guy, merde, on vous sommeille une petite cochonne de Barcelone. Ouh, oh le sagouin, il est talentueux. Vous le méritez bien, votre salaire colossal, hein, monsieur Guy, vous le méritez bien. Même si aujourd'hui, je serai à la place du comptable de France Inter, j'appellerai les poulets pour vous faire coffrer. Tant votre préparation pour cette émission ressemble à une mission Pénélope. Non, les discours blablabla, les discours blibli, on s'en cogne, ce qui compte, ce sont les actes. Je sens bien que vous ne me croyez pas, là. Je vois bien de votre regard de bécasse à moitié cuite que ça vous échappe. Je vais parler football, vous allez comprendre.
Voilà,
je vais parler foot. Après le match aller du PSG, quand ils ont gagné 4-0, le lendemain, quand les Barcelonais ont dit « Ouais, on y croit toujours, on peut se qualifier au match retour ». Bon ben ça, c'était la parole. Tout le monde à Paris s'est dit « Oh putain, c'est bête, un Espagnol, décidément, le chorizo, ça rend con ». Et hier soir, sont venus les actes. Et là, on fait moins les malins. Et là, c'est bon, monsieur Guy, je vois dans votre regard qui s'illumine que vous avez enfin compris ce que je voulais dire. Et vous ferez peut-être encore plus attention aux propos de mon ami et conseiller en diplomatie, le maréchal Ganache, qui, juste avant l'émission, me disait encore « Les grands discours, c'est comme les menaces, ça sert à rien, faut agir et puis c'est tout ». C'est bien ça, maréchal ?
Affirmatif. La parlotte, c'est pour les fiottes. Quand un type t'emmerde, ça sert à rien de lui dire « Arrête de me les casser ou je t'en colle une ». Non, tu lui colles immédiatement ta main dans la gueule et tout le monde gagne du temps. Quand j'étais dans l'armée... Si j'avais un prisonnier viet sous la main, je perdais pas mon temps à lui poser gentiment des questions. Non, je le passais immédiatement à la Gégène. Et pour gagner du temps, pas de place pour le balva. Et la prochaine élection présidentielle ne fera pas exception à la règle. On va nous servir des discours en votant voilà qui n'auront aucun impact. Faudra attendre les actes pour comprendre qu'on s'est vraiment fait baiser.
Belle analyse, merci maréchal. Vous voyez, monsieur Guy, le discours ne sert à rien, et surtout le vôtre. Une fois de plus, tout le monde l'a constaté, vous avez dit, mon pauvre ami...
N'importe quoi.
Exactement.
Je suis seul.
Sur France Inter.
T'as couvert toutes les voies.
Voici le brouillon de culture de Leïla pour Joestar.
Joestar, je sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous.
Nage, est-ce que tu vois ça?
J'ai jamais vu une chose pareille.
Fichons le camp.
On n'est pas venu jusqu'ici pour rien. Il faut y aller.
Attendez, ça bouge. On dirait qu'il y a une vie organique.
Ah, c'est un extrait de la bande-annonce d'Alien. Et si j'en crois votre bio, Joestar, c'est le premier film que vous êtes allé voir seul au cinéma. C'était en 79.
Ouais.
Sentiment de terreur à la sortie du film.
Là, tu ressors, tu sors des petites crottes de lapin comme ça, hein, que tu mets dans ta poche parce que c'est déshydraté. Ah non,
Ça, ça veut dire c'est la peur, c'est, ça. Je traduis, c'est les froids.
Je veux dire, moi, c'est en faisant de la musique que j'ai rencontré des gens qui m'expliquaient que leur premier concert, c'était un concert d'NTM et que c'était... Bah, ma première fois au cinéma, c'était l'endroit, c'était tout, quoi. Enfin, voilà. Et le film derrière, quand il est arrivé, a fini de m'achever, quoi. Voilà. Et je pensais, en sortant de là, je pensais que c'était que ça, le cinéma. On va là-bas pour transpirer et mouiller, voilà. Et donc
là, c'est pour vivre des émotions après.
Non, mais j'ai compris après, bien sûr. Ben, déjà, on était rentré par derrière. Donc,
vous
déjà,
aviez 12 ans. Chose, ça, voilà. Donc, vous aviez 12 ans.
Ouais.
Vous n'aviez pas payé votre place ?
Non.
C'était où ?
C'était à Place Clichy, il y avait des cinémas à l'époque. Pas celui qui était
pas
là.
Pas le Vépler,
sur l'avenue, pas le Vépler. Il y avait plein de cinémas là-bas encore. Hein, voilà.
Et qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup on rentre dans cette salle de cinéma ? Alors,
attendez, mais comme je suis rentré par derrière, c'était peut-être le Vépler finalement.
Ouais. Parce qu'il y a la rue, il y a la petite rue derrière.
Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, pardon ?
Et qu'est-ce qui fait que vous passez devant le ciné, vous avez envie de resquiller ?
C'était la sortie du jour pour mes camarades de quartier. Voilà, on faisait ça et on allait faire autre chose, quoi. Voilà.
Est-ce que vous avez vu votre camarade Cool Chen au cinéma, justement, dans Réparer les vivants, adapté
Je ne l'ai pas vu, là, je compte me le taper dans la semaine, là.
Dans la semaine, ouais. D'accord. Ouais. Et vous, est-ce que vous avez des rêves de réalisation ? Est-ce que vous avez des... parce que dans votre écriture, vous racontez des histoires, dans les clips aussi, c'est une forme d'amorce, de fiction, plus ou moins proche du réel. Est-ce que ça fait un chemin chez vous ?
Pour l'heure, non. Moi, j'ai réalisé des clips pour NTM, tac, mais ça demande moins de temps. l'écriture d'un film, c'est déjà un peu plus long. Pour l'instant, c'est pas dans mes prévisions, non. Non, à moins que, mais comme moi je fonctionne à l'humeur, il se peut, comme pour le théâtre, hein, je crois que la semaine d'avant je devais dire non à quelqu'un et puis boum, ça m'est tombé sur la tronche, quoi. Donc voilà, pour l'heure, non, c'est pas parti.
Sans le réaliser, vous pouvez aussi écrire un film, avoir une histoire.
Je sais, je connais maintenant un peu.
Ah, vous essayez, d'accord.
Non, je dis je sais.
D'accord.
Mais non, pour l'instant, non, mais au même titre qu'on me fait pas jouer, on ne vient pas me proposer d'écrire des choses pour les gens, quoi.
Ouais.
Voilà. Mais il est vrai que j'ai des petites idées de choses que je propose à voir, quoi, pour leur avoir.
Et là, pour ce projet-là, la rencontre avec Pierre Grillet, qui est quand même un grand compositeur de chansons, on lui doit Madame Rêve, on lui doit... Un auteur de chansons, pardon, excusez-moi. Là aussi, il y a des envies de collaboration ultérieure avec lui.
On se connaît pas depuis longtemps, mais on rigole bien tous les deux. Donc après, l'appétit vient en mangeant, comme dirait l'autre. Voilà.
À découvrir. Donc on poursuit avec un autre son.
DJ Spank, DJ Naughty G, Joey Star sur Skyrock. Et aussi Terence, Nati, tous mes béos aussi, un big up, tous les gens derrière les barreaux, on va envoyer ça.
Pour la porte, tous les gens derrière les barreaux, on a encore la porte, pour le son, tous les gars, c'est Skyrock.
C'est le générique de Jeudi Sodomie, votre émission
Jeudi
sur...
Jeudi Jour de Sodomie, puisque lundi ravioli.
Jeudi Jour de Sodomie, pardon, votre émission sur Skyrock.
Il est quel jour ?
On est jeudi, il y a pas rien dans le frigo, donc faut prendre une décision.
Ben moi, j'ai pas très faim et
c'est pas du tout ça le principe de la sous-domination. Non, ça c'est lundi. Le jeudi, c'est pas ce qu'on dit, madame.
Là, t'as pris le dessin à l'envers.
Non, mais moi, j'ai pas faim en fait en général de rien. Et c'est resté une émission culte, Joey Starr, 100% libre, totalement libre. Voilà. Racontez-nous, parce que les médias. De même que certains cinéastes, je pense, vous regardent et vous appréhendent parfois avec crainte, pour des raisons assez différentes, mais ils peuvent vous adorer aussi. Et là, on s'est dit, un jour, quelqu'un vous dit, prenez les commandes, faites ce que vous voulez, c'est ça l'idée ?
En fait, quelqu'un que...
Laurent Bounou ?
Ouais, puis que je portais pas dans mon cœur. Donc me propose un truc que je lui avais déjà moi proposé, j'avais fait un script pour une émission de radio, machin, et le mec m'a toujours dit non, mais bon, écoute, c'est ton problème. Et donc il revient vers moi, par le biais de mon manager, et me dit, ouais, tiens, j'ai eu cette idée. Je dis, tu te fous de la gueule de qui, quoi. Et donc comme ça m'avait bien énervé, donc il me dit, alors ça t'intéresse ? J'ai dit, ouais, moi je le fais, mais je veux pas le faire chez vous, je mets pas les pieds à Skyrock. Donc, mais c'est-à-dire que je faisais tout pour qu'il me dise non. Et lui, il me disait, écoute, ça c'est pas un problème. Il y a un truc qui s'appelle des modems. On peut relayer de chez toi. Ok. Comment tu vas appeler l'émission? Et comme ça, du tac au tac, je dis, bah, c'est quel jour jeudi? Bah, jeudi, si lundi c'est ravioli, jeudi c'est sodomi. Mais je pensais pas qu'on allait faire quelque chose derrière. Je disais que de la merde, quoi.
Ah, c'est une bonne blague.
Et le mec était là à faire, tu vois, comme avec une télécommande pour tête de con, à faire ça.
Il vous a engagé, vous continuez de dire qu'il a une tête de con?
Ouais.
Ok. Ah bah, il y a un truc qui peut s'appeler la reconnaissance.
Et après, du coup, après, reconnaissance de quoi?
Bah, du taf, de la. Vous avez fait un truc ensemble, finalement.
Ah, je n'ai rien fait avec lui, j'ai fait un truc avec la radio Skyrock.
Grâce à lui.
Mais lui, je le crédite pas. Le mec, il se prend encore pour le mec qui fait la pluie et le beau temps sur la musique en France, mais qu'il aille manger sa cape ailleurs. Alors attends. Non, mais. Et le truc, c'est que l'émission a marché, de fait. Attends. L'émission a marché. Du coup, il nous a filé le samedi. Donc, c'est donnant-donnant, c'est l'histoire.
Samedi, c'était quoi?
Samedi, mets ta femme à l'abri ou attache ton cabri. Voilà. Donc, on était à 20h un samedi. Tu vois ce que ça veut dire, quoi. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, quoi. Et on a duré, on a duré plus de 5 piges quand même.
Hein. Ouais. Et puis il y a eu des rencontres qui ont donné par exemple ça.
Quand je rentre dans la rue, je suis comme un dieu qui s'amène. Même le fil, il me mène. Je suis en période et je suis prêt. Prêt des mesures bien huilées. La masse criminelle, je suis porté, transporté. Tu ne cesses de exister. Tu ne peux que capituler.
Parce que c'était l'occasion de faire des rencontres et des rencontres qui ont donné aussi de la musique derrière.
Ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on était à un moment donné, on faisait partie du parcours promo incontournable pour les artistes rap, tout ça. Et il y a des gens qui montaient à Paris pour aller faire cette émission. Et puis ça se passait chez moi. C'est-à-dire que le jeudi, il y avait au moins plus de 80 personnes chez moi.
À Saint-Ouen, c'était ça.
Moi, je devais en connaître 15-20. Et les autres, tac. Et il y en avait autant dehors, devant la maison, quoi. Et avec les Condés qui passent, tac, et qui se disaient, un jour on va rentrer, ils vont comprendre, les mecs, et ils sont jamais rentrés, quoi.
Et l'émission devait faire quoi? 1h30 normalement, la durée?
Au départ, elle devait faire 1h30, 2h, mais entrecoupée de 10 minutes de pub, donc ça veut rien dire cette histoire, enfin, excusez-moi, pour nous.
Et du coup. On n'a pas de pub, oui.
Mais c'est pas ça, c'est comment ça s'est passé, c'est-à-dire que la première émission démarre. Et on commence à minuit, vers 2h du matin, enfin, comme c'est un peu plus long, vers, je sais pas, une fois, 1h du matin passé, on entend une pub, si tu es un homme et que tu aimes les bergers allemands, t'as fait 36 machins non plus. Et là, on les appelle,
vous avez
vous avez perdu une roue, quoi. Et donc, à un moment donné, il y avait des pubs qui concernaient que les homosexuels, quoi. Ouais. Et donc on a commencé à leur dire, ouais, vous êtes bien gentils, mais nous on joue, toi, et puis les pubs, ça nous fait perdre. Parce que nous on avait 5 DJ programmés, que les 7 soient machin, il y avait un truc technique qui nous dérangeait.
Mais qui
et donc au bout de deux jeudis, ils nous ont appelé, ils ont dit, vous savez quoi,
hein? Où est le problème qu'il y ait une pub homosexuelle?
Mais déjà la pub nous faisait chier, mais la couleur de la pub, c'était juste, voilà, on n'avait pas envie de ça, quoi.
C'est plutôt une pub sale, plutôt que...
Mais non, mais là c'était comme je te l'ai dit, si tu es un homme et que tu aimes les bergers allemands, donc c'est pas la même chose.
C'est zoophile, ouais, c'est carrément.
Qu'est-ce que tu veux là? Alors laisse-moi finir te dire.
Alors qu'est-ce que vous avez contre les bergers allemands?
Voilà, ouais, en plus. Non mais au bout de deux jeudis, ils nous ont enlevé la pub et ils nous ont dit, bon, vous savez quoi, vous finissez jusqu'à plus soif, donc on finissait à 5-6 heures du matin. Et le truc, c'est que par moment, ils voulaient pas. Enfin, le mec qui était là pour reprendre l'antenne était ailleurs. Donc on passait de la merde. Chapeau. Et on racontait des conneries par-dessus.
Et ben justement, on va changer d'ambiance, je vous fais un petit cadeau. C'est pas du rap, c'est de la musique classique, c'est la symphonie des oiseaux. C'est chez Mirard, on écoute un petit peu. Il y a la violoniste Geneviève Laurenceau, la pianiste Shani Di Luca qui sont associés à deux chanteurs d'oiseaux. C'est deux types merveilleux qui reproduisent le chant des oiseaux qui ont passé toute leur jeunesse dans la baie de Somme. Ils font ça depuis qu'ils sont gamins. C'était un moment...
Ils sont encore vivants, les mecs. Ils ont été tirés par les chasseurs.
Ils faisaient partie de la programmation
des victoires de la musique classique.
Non, encore, pas encore comme le rhinocéros à Thoiry, pas encore. Mais c'est très très beau. Et,
à propos de musique, Joe Star, des projets, un album...
Bah là, je refais des titres. Là, je suis en train de monter un projet que qui va s'appeler Ponk Funk Hero. J'ai déjà fait. Il y a Sinclair qui m'a filé des prods. J'ai déjà fait un titre avec. Pour l'instant, donc là, je suis dans mes trucs de théâtre, tout ça. Mais dès que j'ai fini, je me remets direct.
Ah, et prochain concert NTM, c'est quand?
Ah ouais.
Et paraîtrait-il que pour l'instant, en novembre, on devrait commencer un truc. Il devait y avoir quelque chose là en mai, mais avec le Secours Pop, mais finalement, c'est peut-être remis à novembre. Voilà. Mais il y a un truc.
C'est dans les cartons.
C'est dans les tuyaux. Ce serait NTM and Friends, avec le Secours Pop.
Merci, Joey Star, portez-vous bien et en représentation au Théâtre de l'Atelier en attendant le Panthéon. Voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
Après oui, salut Nagui, salut tout le monde. Salut. C'est bien l'éloquence à l'Assemblée, ça change des séquences de la dispersion. Parce que vous savez, clair. Ils veulent tous rassembler. Et puis en jardinage, quand on veut rassembler les feuilles mortes, on prend un râteau.
Allez.
Ah. Hey. Eh, ouais.
Bonne émission.
Merci, salut les amis.